Le dicaster pour la doctrine de la foi vient de publier une déclaration sur la dignité humaine.
Après 5 années de travail, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié le 8 avril Dignitas Infinita. Cette déclaration d'une 20aine de pages entend réaffirmer le caractère incontournable du concept de dignité de la personne humaine. Et pour nous expliquer ce texte, je suis avec frère Maxime Marcelin. Bonjour frère.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes dominicain au couvent de Toulouse. Vous avez eu la gentillesse de décortiquer pour les auditeurs de Radio Présence cette déclaration Dignitas Infinita. Merci beaucoup pour votre travail. Une petite remarque peut-être pour commencer. L'Église utilise le terme de dignité humaine, compris a priori par tous, plutôt que de celui de loi naturelle. De quoi ce choix est-il le signe ?
Alors, en effet, elle récupère d'un texte de Jean-Paul II, notamment l'idée de dignité infinie, dont il avait parlé en 1980 dans une catéchèse, notamment avec des familles, avec des handicapés à l'époque. Et l'Église essaye de parler au monde. Quand elle essaye de parler au monde, jusqu'à présent, elle utilise énormément la loi naturelle, qui derrière parle de Dieu en fait, sauf que c'est de moins en moins compris par le monde, de moins en moins reçu, les gens sont pas dupes que derrière il y a souvent la question de Dieu qui est derrière la question de la nature quand un chrétien en parle, donc on passe à un peu ce qu'il y a après la loi naturelle, qu'implique la loi naturelle, qu'il y a une dignité humaine. Et cette dignité humaine en revanche, là, les gens sont beaucoup plus habitués, on est beaucoup plus habitués à en entendre parler par le biais de tout ce qui a trait à la déclaration des droits de l'homme, à la dignité humaine, à ce que font les associations pour le droit des gens, et du coup pour leur dignité. Et là, en revanche, du coup, c'est une manière plus simple de réaffirmer, de pouvoir partager le message de l'Évangile, mais plus largement. Et donc, c'est le signe de se rapprocher toujours plus du monde pour pouvoir leur partager l'Évangile.
Alors nous allons le voir, hein, la notion de dignité, elle a plusieurs explications. En tout cas, l'Église donne, en tout cas dans cette déclaration du dicaster, une définition. Et puis évidemment, on va voir différentes formes de dignité qui sont données plus et employées davantage par la société et qui permettent, entre guillemets, d'avoir un certain nombre de violations. Alors, on va commencer peut-être par cette définition que donne l'Église de la dignité. Que dit-elle ?
Alors, l'Église lie la dignité à notre liberté, très fondamentalement, et au fait que nous soyons comme chrétiens, que nous soyons créés par Dieu et appelés au ciel. Hein. Créés à l'image de Dieu, à ce titre-là, dotés d'une vraie liberté. Une liberté qui pour le chrétien est véritablement aidée par le Christ, hein, et qui va nous donner de chercher à faire le mieux, à faire le bien, et donc pour pouvoir entrer au ciel, croit-on, pour pouvoir voir Dieu, entrer dans la béatitude et le bonheur éternel que Dieu veut pour nous. Et quand on ne croit pas en Dieu, on peut au moins croire qu'on a cette liberté fondamentale comme être humain, et que tout doit être fait pour nous aider à faire le bien avec cette liberté. Donc c'est ce qui va définir un petit peu la dignité et ce qui appelle à la défendre, notamment pour que notre liberté soit toujours honorée et qu'on puisse faire les choses comme des adultes libres.
C'est ce que dit le dicaster. La dignité de l'être humain comprend également la capacité inhérente à la nature humaine elle-même d'assumer des obligations à l'égard d'autrui. C'est ce que vous dites, c'est non seulement la liberté, mais aussi l'obligation d'agir.
Oui, tout à fait. C'est un versant qu'on verra toujours. Il y a un côté être, si vous voulez, ce que nous sommes, des êtres libres, et du coup capables d'agir, en effet, et de pouvoir agir non seulement pour nous-mêmes, en effet, ça sera notre dignité d'agir, mais aussi pour défendre la dignité des autres. Hein. Et régulièrement, dans ce texte du dicaster, reviennent un petit peu des appels qui sont profondément ancrés dans l'Évangile, et dans l'Ancien Testament aussi, même, plus dans la loi divine, finalement, dans ces rappels de tout ce que le Seigneur veut que nous fassions, en particulier pour les pauvres, hein, pour les plus pauvres d'entre nous. dont la dignité est sans doute est plus menacée, c'est pas sans doute, dont la dignité est plus menacée, quelle que soit leur forme de pauvreté, hein, qu'elle soit une forme de pauvreté sociale, spirituelle, économique évidemment, ou même de santé par exemple.
On retrouve bien la patte du pape François en tout
cas.
Oui,
tout à fait, ouais, bien sûr. Ouais. Hein. C'est un texte qui est très ancré dans Fratelli Tutti. Le pape y a mis sa patte quand il a redonné la copie au cardinal et à ceux qui travaillaient sur le texte pour véritablement prendre en compte ce à quoi il tient et ce qu'il avait déjà formulé, notamment dans son encyclique Fratelli Tutti. Mmh.
On constate une différence entre la dignité personnelle et la dignité humaine. Qu'est-ce que cette différence implique ?
Il essaye de bien décortiquer le mot, parce que justement le problème de récupérer un mot dont on a l'habitude, dont on entend souvent parler, c'est que...
Un mot à tiroir.
C'est un mot à tiroir et que tout le monde utilise le même mot sans penser à la même chose derrière. Et donc, il y a entre autres bien ancré la dignité dans la personne humaine en disant c'est parce que vous avez une personne humaine que vous avez une dignité et que c'est pas par un consensus qu'on va accorder la dignité à quelqu'un. Et que donc, on ne peut pas enlever la dignité, par exemple, à une personne très très âgée qui n'aurait plus ses facultés ou à une personne très très très, très jeune qui n'aurait pas encore ses facultés ou à une personne très handicapée par telle ou telle chose qui aurait... telle maladie génétique ou autre chose, on ne peut pas non plus lui enlever sa dignité à
elle
ce titre.
Elle est intrinsèque.
Elle est donc profondément ancrée dans la personne, intrinsèque, oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Et dans cette déclaration Dignitas Infinita, le dicaster pour la doctrine de la foi décline quatre notions de dignité.
Oui.
Donc on a parlé déjà de cette dignité ontologique. Hein,
c'était la première, celle dont on vient de parler. Oui.
Voilà.
Oui.
Il y a aussi la dignité morale, la dignité sociale et puis la dignité existentielle. Peut-être si on veut commencer par poursuivre par cette dignité morale, elle se réfère davantage à la liberté de la créature humaine. Cela sous-entend peut-être qu'elle peut être perdue. Expliquez-nous, frère Maxime Marcelin.
Oui, alors, à la différence de la dignité ontologique, qui, elle, ne peut pas être perdue et qui sera, un petit peu le sens premier de la dignité qu'il faut toujours avoir en tête. Pour ne pas le perdre. Ensuite, en revanche, en effet, sur la dignité morale, c'est-à-dire que on peut librement faire le mal et qu'il ne faut pas être naïf, croire que on est des êtres formidables, incapables de faire le mal. Non, c'est ce que l'on voit par ailleurs. Quand on est fauteur d'un crime abominable, d'une guerre, par exemple, il est indéniable qu'on perd la dignité morale de faire le bien, justement. Puisqu'on n'a pas fait le bien, il y a une forme de dignité que l'on perd. C'est celle dont il est question un peu ici, liée justement à notre liberté. Quand on fait le mauvais usage de notre liberté, il y a une forme de dignité qui se perd, mais qui ne va pas aller jusqu'à supprimer complètement la dignité ontologique.
Voilà,
et donc on ne pourra pas, par exemple, complètement exclure la personne qu'on fasse. En revanche, que la personne assume ses responsabilités, ça sera très important. Mais on ne peut pas lui dénier toute dignité à cause des plus grands crimes qu'elle aurait pu commettre.
Oui, le texte parle de... On se retrouve face à des personnes qui semblent avoir perdu toute trace d'humanité.
Tout à fait. Hein. Avec ce lien vraiment très fort, du coup, qui est fait sur ce registre-là, quand on est sur cette dignité morale entre, en effet, notre humanité, notre liberté, et l'usage que l'on fait de notre liberté. Hein. Être vraiment humain, c'est utiliser notre liberté pour faire le bien.
Oui. Le texte évoque la gestation pour autrui. C'est quand même une grande première pour un texte du Vatican.
Oui.
En quoi est-elle une atteinte à la dignité humaine ?
Eh bien, pour ces personnes qui exploitent les autres, en fait, hein, et qui vont soumettre un petit peu des personnes humaines à des impératifs très contestables, notamment, où il y aura de l'argent qui va rentrer en compte, et où donc on sent une utilisation des autres qui est vraiment, du moins, perverse, sous un certain rapport, et donc qui met en jeu, cette dignité morale, pour le coup, là. Et en effet, les papes parlent régulièrement de cette histoire de GPA, donc ça fait partie des choses qui sont un peu rappelées en replaçant bien dans ces quatre dignités. Du coup, ça permet de resituer
Et c'est non seulement une atteinte à la dignité de l'enfant, et puis aussi une atteinte à la dignité de la mère porteuse qui est altérée. Dignitas Infinita parle de la dignité sociale en se référant aux conditions dans lesquelles la personne vit. Afin d'éviter l'individualisme, le commun est important. Pourquoi, frère Maxime?
Oui. Alors déjà dans la loi naturelle, quand on en parlait, il fallait toujours se rappeler que la loi ne fait pas que définir moi et ma personne et mon petit moi, dans ma relation à Dieu notamment, et puis aux autres peut-être, mais elle définissait déjà nos relations avec les autres. Hein. Et donc là, c'est très bien aussi d'avoir cette chose assez importante, qu'il y a une dignité ontologique, et là, on parle souvent des individus, ça sera souvent dans les personnes elles-mêmes, mais qu'il y a aussi un impact avec les autres, et qu'il y a une forme sociale de la dignité, qui est, là pour le coup, le pape y tient beaucoup, puisque... ma dignité va grandir dans la mesure où je suis capable d'avoir une attention pour l'autre et pour le plus pauvre en particulier. Hein. Et donc ça, c'est bien de le rappeler, ça permet de comprendre toujours mieux un petit peu les enseignements du pape François, si vigoureux sur l'attention aux pauvres, aux migrants et aux... Et où donc, pour lui, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une dignité sociale des personnes. Et qu'on ne peut pas chercher à défendre son petit moi, son petit foyer, sa petite maison, sans se couper des autres et sans avoir altérer une forme de dignité qui est liée à notre vie en société. On est vraiment des animaux sociaux, hein, on a besoin de vivre et on aspire à une paix plus grande qui grandisse.
À cette dignité sociale est attaché ce que le texte appelle les violences numériques qui contraignent certaines personnes à vivre dans des conditions de détresse sociale et psychologique. Donc là, c'est vraiment une atteinte à la dignité. Le pape dit aussi que le monde numérique est un espace de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence, jusqu'au cas extrême du dark web. Je voudrais qu'on parle de cette quatrième forme de dignité, la dignité existentielle. Elle se réfère à la condition de vie, qu'elle soit digne ou indigne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point?
Et là, il entre dans quelque chose qui touche beaucoup notre société, sur le ressenti, la subjectivité qu'on a, comment je me sens vis-à-vis des choses, et où souvent, justement, il y a un ressenti de dignité, de me sentir digne ou indigne, en fonction de...
On le voit pour les personnes en fin de vie qui parfois disent « je ne suis plus digne de vivre ».
Tout à fait. Mmh. Un peu lié à la dignité sociale d'ailleurs, parce que souvent elles ne se sentent pas dignes à cause du regard des autres. De la pression des autres, c'est ça. Parfois c'est simplement par le fait de perdre ses forces, en effet, qui leur donne ce sentiment. Et donc de pouvoir leur redonner cette dignité existentielle et les ancrer toujours plus. Et en effet, du coup, ça pose la question, après, de toutes ces questions de genre et de changement de sexe. Là, pour le coup, c'est très nouveau dans un document pontifical, de même que les violences numériques, il n'y avait pas un document comme ça qui en parlait autant, et où, justement, il y a un rapport difficile de l'existence à sa réalité, à ce qu'on est, et où on voit que, voilà, il y a... Il faut voir à quel point les théories du genre, puisqu'elles sont nommées comme telles, hein, même avec le mot anglais entre parenthèses, de gender, pour bien situer la pensée qu'il y a derrière et qui est traitée, mettent en cause parfois la dignité existentielle des personnes qui se remettent en cause sur ce qu'elles sont.
Mmh. Et enfin, pour le changement de sexe, le texte rappelle que le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Merci beaucoup, frère Maxime Marcelin, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle déclaration Dignitatis Infinita, publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi.
Je vous remercie.